Entre les lignes, Jean-Marie Félix.
Entre les lignes, avec Catherine Fatberg, je reçois Florian Aiglin et Quentin Mouron, tous deux publient un ouvrage de fiction aux éditions La Grande Ours. Je vous souhaite la bienvenue. Bonjour. Au long de cette semaine, la RTS vous propose, vous le savez, de nombreux échos du Salon du Livre et de la Presse de Genève, 30e édition. Entre les lignes, bien entendu, participe à cette grande célébration de l'écrit qui prend cette année une dimension particulière, justement parce qu'il s'agit de la 30e édition. Mardi et mercredi, avec Sylvie Tanette et Annick Chuin, nous nous sommes intéressés de près à la scène littéraire tunisienne parce que la Tunisie est l'hôte d'honneur de cette édition 2016, cela 5 ans après la révolution dite de Jasmin et 60 ans après l'indépendance du pays. Des scènes littéraires, il en existe de multiples à Palexpo. Et aujourd'hui, nous donnerons la parole à deux jeunes auteurs romans qui seront présents vendredi sur la fameuse scène du crime. La scène du crime, c'est un lieu de rendez-vous qui ne désemplit pas et dont la fréquentation témoigne sans doute d'un net regain d'intérêt pour le roman noir, ce qu'on appelle aussi le polar, chez les auteurs qui publient en Suisse romande. Florian Aiglin et Quentin Mouron sont donc nos invités et avec eux nous allons évoquer cette littérature de genre et l'acception sans doute très large que revêt le terme roman noir ou polar. L'un et l'autre publient un ouvrage aux éditions La Grande Ours. Je vous les présente. À ma droite, Florian Aiglin. Non, il est plutôt à ma gauche aujourd'hui. Florian Aiglin, auteur de Ciao Connard, roman paru en mars. Bonjour Florian.
Bonjour.
Et à ma droite, en effet, Quentin Mouron, auteur de L'âge de l'héroïne, livre à paraître en juin. C'est dire que c'est une avant-première aujourd'hui. Bonjour Quentin.
Bonjour.
C'est extraordinaire parce qu'on a eu l'occasion, entre les lignes, de vous recevoir à plusieurs reprises, 3 fois chacun, séparément. Et aujourd'hui, on vous réunit. Donc, première question que j'ai envie de vous poser, vous connaissiez-vous avant cette réunion au sommet entre les lignes ?
Oui, on avait déjà eu l'occasion de boire quelques verres ensemble. Je crois que c'est toujours un plaisir. On s'était vu au Salon du Livre de Paris. On s'était vu avant. On est intervenu dans quelques classes, je crois, à Genève. On s'est croisé dans des librairies. On s'est croisé à Morges, au Livre sur les Quais. Donc, je crois qu'on n'était pas de parfaits inconnus avant la rencontre de ce matin.
Florian, vous sentez des accointances littéraires avec Quentin Mouron ?
Oui, absolument. Au moment où j'ai commencé à écrire, Quentin avait sorti, je crois, son deuxième ou troisième livre. Et puis, d'entrée de jeu, j'ai rapidement lu ses ouvrages avec un intérêt tout particulier pour Notre-Dame de la Merci. Que j'ai d'ailleurs offert à un ou deux amis. Et puis ensuite, j'ai lu avec autant d'intérêt 3 gouttes de sang. Et d'ailleurs, c'est au moment où Quentin a sorti ce livre à la Grande Ourse. Mm-hmm. Moi, à ce moment-là, je venais de terminer la rédaction de ce qui serait plus tard Ciao Connard. Je lui ai dit, écoute, mon vieux, est-ce que tu peux pas faire coucou à ton éditrice pour me dire, écoute, voilà, j'ai envoyé un manuscrit. Et puis, donc, quelque part, je lui dois aussi une bouteille que je t'ai offerte, je crois.
Et que j'ai vu.
Votre monnaie d'échange, Florian, c'est le Châteauneuf, hein, c'est ça ?
Alors, c'était pas du Châteauneuf en l'occurrence, c'était le vin traditionnel de Solal Arnavitch. Donc, au début du premier volume de la trilogie, Solal achète une bouteille de Clos de l'Oratoire des Papes. Et donc, en général, c'est ça ma monnaie d'échange.
Donc, si je comprends bien, si vous avez quitté la Baconnière, vous vous retrouvez aujourd'hui à la Grande Ourse, c'est grâce à Quentin Mouron.
C'est grâce à Quentin Mouron, entre autres, oui.
C'est surtout parce que j'ai envie qu'on m'offre une bouteille. Hein.
Oui. Voilà, alors, rien n'est gratuit en ce moment. À vos côtés, messieurs, je vous présente Catherine Fatberg, qui est une cinéphile et lectrice avertie et qui connaît parfaitement la littérature de genre. Bonjour Catherine.
Bonjour Jean-Marie, bonjour
messieurs. En quelques mots, dites-nous dans quelle sombre histoire se trame Ciao Connard et l'âge de l'héroïne.
Ça se trempe dans des substances délétères. Vous le verrez, nos deux auteurs trempent leurs plumes, ou alors leurs encriers, ou tout ce que vous voulez. Dans l'un, dans des traces de sang, l'autre, dans des traces de drogue. Il y a aussi du sang, quand il y a de la drogue, c'est évident. Quentin Mouron nous emmène aux États-Unis avec Frank, qui est son héros bibliophile, à la recherche d'un soc d'héroïne dérobé à un biker. Tout ça finit très très mal. Florian Aiglin, lui, met également en scène un amoureux des livres, un écrivain. En l'occurrence, torture avec panache et imagination morbide grâce à un stylo plume décoré de chrysanthèmes. Entre autres, il est torturé par sa propre créature. Nous parlons donc de roman noir, mais on va ouvrir le champ, vous le verrez. Et tout ça est servi avec délectation. Nous dégustons des mets froids, servis très froids par ces messieurs. C'est du cru aujourd'hui.
Et ce n'est qu'un premier service. Florian Aiglin, vous êtes très présent sur les différentes scènes du Salon du Livre de Genève. Vous avez été célébré hier, dès la cérémonie d'ouverture. lecture, parce que vous êtes le co-lauréat du prix du Salon du Livre de Genève aux côtés de Dounalou. Comment vivez-vous ce brusque coup de projecteur qui apparaît sur vous?
Disons que c'est un immense plaisir, et puis c'est vrai que d'un seul coup cette semaine il y a une forte accélération, il y a beaucoup de sollicitations.
Un emballement médiatique.
Cette semaine en tout cas, on verra ce qui en sera la semaine prochaine. Mais oui, je suis vraiment heureux. En l'occurrence, c'était une semi-surprise parce que voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la confidence, et puis le bruit, ça
va filtrer. Il y a eu quelques fuites.
Il y a eu pas mal de fuites. Donc en fait, la vraie première surprise pour moi, ça avait été de me retrouver sur la liste avec aux côtés d'auteurs extrêmement confirmés comme Jean Echenot, Pascal Kramer, que j'admire beaucoup.
Philippe Besson,
oui.
Des carrures quand même.
Oui, c'est ça. Donc être sur la liste, c'était déjà en quelque sorte un prix en quelque soit. Et la suite, je n'y croyais pas.
Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de tout ce battage? Comment vous allez évoluer par rapport à tout ça?
C'est presque un petit peu intimidant, parce que d'un seul coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ce que j'ai écrit, puis on me dit quelle est la suite, on me donne des conseils, tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ça, et donc j'ai des projets qui sont ma foi, que j'ai dévoilés déjà ouvertement, je sais plus ou moins ce que je vais écrire, mais voilà, il y a peut-être un peu d'attente de ma part, un petit peu du coup d'inquiétude, surtout que ça fait un bon moment que je me suis pas remis au travail, donc voilà, c'est vrai que j'attends de pouvoir un peu me remettre devant mon ordinateur et commencer à continuer à écrire.
Sur le papier, Florian, le jury du prix du Salon du Livre récompense, et là je le cite, un roman porteur de l'esprit de Genève, et après on trouve ces termes, liberté d'expression, humanisme, cosmopolitisme, débat d'idées. Alors il faut préciser à l'intention de nos éditeurs que ce n'est pas Ciao Connard qui vous vaut toutes ces récompenses, c'est votre roman précédent, le troisième volume de la série des Solal Aronovitch, et celui-ci était intitulé Solal Aronovitch Holocauste. L'esprit de Genève, comment l'entendez-vous?
Écoutez, je pense que l'esprit de Genève, c'est aussi une manière de mettre l'humain au centre. Et on ne peut pas dire que dans Holocauste, le corps humain ne soit pas au centre. Maintenant, ensuite, c'est vrai que quand j'ai lu moi-même l'intitulé du titre, je me suis dit, waouh, je pense que je n'aurais pas le prix. Parce que franchement, défendre un bouquin pareil. Mais ensuite, il a été visiblement défendu, notamment par Charles Mella, dont j'ai suivi les cours à l'université. Et voilà, et visiblement, il peut aussi toucher une certaine fibre humaine maintenant.
Bon, il faut aussi dire que ces trois romans sont très inscrits dans le contexte géographique genevois. Vous êtes genevois vous-même et vous connaissez bien la ville, et vous avez inscrit le parcours de Solal Aronovitch dans cette géographie particulière.
Oui, alors à cet égard-là, c'est vrai que la ville de Genève est presque un personnage à part entière pour ce qu'elle est véritablement, parce qu'il y a des lieux qu'on peut tout à fait reconnaître. Par exemple, dans le volume 2, il y a le restaurant Le Père Glosu qui est au centre de la ville. Et puis ensuite, je me suis permis d'investir aussi ces lieux que j'aime et dans lesquels je vis, en imaginant d'autres endroits, en agrandissant des endroits. Je me suis amusé notamment à modifier la jonction, à l'agrandir, à y déplacer le cimetière des rois, à y mettre des tombes qui n'y sont pas. Donc voilà, oui, Genève, c'est aussi quelque part un corps qui fait partie de ces textes.
Je me tourne vers vous, Quentin Mouron. Donc vous êtes aussi très présent sur les différentes scènes du Salon du Livre, et pas forcément sur la scène du crime, quoi vous y serez en compagnie de Florian vendredi après-midi vers 17h30. Justement, cette rencontre de vendredi est intitulé « Génération Polar Suisse ». Alors là, on va vous poser une question d'emblée qui nous taraude depuis un moment. Est-ce que vous-même, vous vous sentez appartenir à une nouvelle génération qui est en train de renouveler le style du polar suisse, plus particulièrement?
Avant de gloser sur mes appartenances, je vais faire la remarque suivante. Il y a en effet beaucoup de polars et de bonne qualité qui paraissent en Suisse ces derniers temps. Ces deux dernières années, il y a quand même eu énormément d'auteurs qui sont arrivés, d'autres qui sont passés au polar. C'est aussi mon cas, en tout cas pour Trois gouttes de sang et Un nuage de coke. Après, je ne sais pas si j'appartiens vraiment à cette génération. Moi, c'est toujours difficile. Moi, j'écris des livres. Donc, après, forcément, les gens ont envie de les ranger dans leur bibliothèque, où ils ont envie de savoir s'ils doivent les mettre sous polar, sous littérature romande.
C'est le souci des libraires, en général.
C'est le souci des libraires, c'est le souci des critiques, c'est même le souci des lecteurs. C'est en tout cas pas mon souci. Donc, quand je commence un livre comme L'âge de l'héroïne, je me demande jamais est-ce que là, je suis dans les codes du polar, parce que moi-même, je suis pas un grand lecteur de polar. Donc, forcément, là, visiblement, il y a une sorte d'émulation autour du polar. Voilà, c'est peut-être pour moi l'indicateur qu'il faudra bientôt que je quitte le genre, mais en tout cas, pour l'instant, je me sens pas appartenir. J'ai des accointances avec les auteurs de manière privée, mais je me sens pas forcément faire partie d'un mouvement, et encore moins d'un mouvement générationnel.
Catherine.
Polar, roman noir, ce n'est pas tout à fait la même chose, en l'occurrence. Alors chez vous, Quentin Mouron, on peut éventuellement parler de polar puisque vous partez avec un détective. Donc là, on est dans le code. Et par contre, chez vous, Florian, le polar...
Écoutez, moi, je m'interroge aussi, bien sûr. Je suis content de faire partie de... Je pense que le genre est assez large. Maintenant, c'est clair qu'ensuite, il y a un code qui est extrêmement précis. Alors, si de nouveau, dans Ciao Connard, effectivement, il y a un mort, en l'occurrence, bon, il ne le reste pas jusqu'au bout. Et en revanche, il n'y a pas d'enquête de police parce qu'on sait très bien qui fait quoi. On sait aussi pourquoi est-ce qu'on le fait. Donc, voilà. Les indices, il y en a partout dans la pièce. Donc, c'est clair que c'est pas vraiment un peu là. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'à cet égard, je le disais tout à l'heure avant l'émission, quand j'ai fait ma première séance de dédicace chez Payot, la libraire est venue me demander, voilà, amis polar d'abord, si je vous ai enlevé, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, c'est vrai que par souci d'honnêteté, parce que je ne vais pas induire le lecteur en erreur qui voudrait lire une enquête policière, je dis non, c'est pas un polar, parce que si c'est ça qu'on veut lire, une enquête avec résolution, etc., c'est pas ça dont il s'agit. Maintenant, de nouveau, le bouquin, il a été absorbé dans ce mouvement-là, ma foi, il vit sa vie.
Vous êtes voulu, l'un et l'autre, Quentin avait voulu Ciao Connard, Florian avait voulu L'âge de l'héroïne.
Oui.
C'était une belle unanimité.
Oui, c'est parce qu'on est chez le même éditeur, donc on a une forme d'unanimité. Non, mais on sait, en effet.
Comment vous êtes voulu? C'était le sous-texte de ma question.
Comment
avez-vous appréhendé le texte de l'autre?
Moi, j'étais assez curieux de le lire, donc j'ai reçu le livre il y a deux semaines, trois semaines, et puis donc je me suis plongé dedans tout de suite avec pas mal d'intérêt. Alors que la scène d'entrée, la scène d'ouverture, voilà, elle est. On va quand même le dire à guicheuse, donc tout de suite, la lecture a été lancée. Et puis très vite, j'ai été... alors, il ne faut pas que j'en dise trop, bien sûr, parce que le bouquin n'est pas encore sorti. Mais disons, c'est peut-être bateau ce que je veux dire, mais j'ai particulièrement apprécié l'atmosphère du livre et le rythme auquel il avançait.
Il me semble qu'il y a une langue qui est commune quand même, une langue un peu baroque et qui fait la part belle à des circonvolutions et à une richesse du vocabulaire notamment, que ce soit chez vous Florian ou chez vous Quentin, qu'en pensez-vous?
Oui, en tout cas, moi j'ai retrouvé ça en lisant Florian, Léon Ciao Connard, avec un grand plaisir. Et c'est vrai qu'il y a, je pense, ce souci de la phrase, ce souci de pas, et aussi le souci de pas seulement amener un objet esthétique, et pas seulement être des stylistes, mais aussi amener quelque chose de peut-être plus profond. Il y a dans Ciao Connard, au début, on se dit, mais tiens, c'est des motifs comme ça, purement esthétiques, finalement, c'est seulement un jeu. Et finalement, le jeu prend sens, et ça devient vraiment un livre obsédant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu, beaucoup touché. J'avais déjà aimé les précédents romans de Florian, particulièrement Holocaust. Alors celui-ci, vraiment, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de quintessentiel. C'est vrai que si on me dit, mais il faudrait lire quoi d'Aiglin, je conseille spontanément Le Ciao Connard, parce que je trouve que c'est une porte d'ouverture sur son univers qui est vraiment très belle et qui ne manque pas du tout de classe.
Catherine ?
Il y a des choix de vocabulaire chez l'un et chez l'autre qui sont particulièrement nourris. On vous entend, Quentin Mourant, quand vous en parlez, même comme ça, vous avez un vocabulaire très fleuri. Cette force des mots, c'est ce qui vous distancie peut-être du genre à proprement parler, dans lequel on aimerait vous cataloguer ?
Oui, peut-être. C'est-à-dire que souvent, quand je lis un polar, je dois dire que j'ai une certaine frustration. C'est pas qu'ils sont mal écrits, ils sont peut-être simplement mal traduits. Parce que souvent c'est des polars américains et puis on doit les traduire rapidement. Il faut que c'est pas du tout le même. Quand on traduit l'Ulysse de Joyce, on va mettre plusieurs années, on met 12 personnes dessus, on fait un vrai travail. Tandis que quand on traduit le dernier polar à la mode, faut que la mode reste. Alors il faut forcément presser les choses. Et du coup ça donne une littérature qui est souvent sous-écrite et c'est pas forcément de la faute de l'auteur. Et c'est vrai que moi c'est pas une réaction, c'est simplement que j'ai une manière de parler, j'aime exprimer des choses de manière précise. J'ai pas cette espèce de fétichisme du mot, du goût du mot, avec toutes ces espèces de très lourdes métaphores culinaires qu'on sort d'habitude, mais j'aime simplement être précis quand je m'exprime, et en tout cas quand je m'exprime dans un livre.
Et vous avez un vocabulaire qui est quand même très ancré dans le XVIIe siècle par moment, ou dans le XIXe. Cabinet de curiosité. Votre vocabulaire se rapporte à ce cabinet de curiosité qui vous est propre.
Oui, j'avais une ex-copine qui me disait que j'étais un peu XIXe. Je crois qu'elle n'en c'était pas un compliment dans sa bouche.
Ah non, c'est une accent.
Dans le nôtre, c'en est un, croyez-nous. Allez, on va commencer par écouter un premier passage de votre roman, Quentin Mourant. L'âge de l'héroïne, Florian y faisait allusion à l'instant, s'ouvre sur une première partie totalement brillante intitulée « Ouverture baroque » qui se passe dans la ville de Berlin. Puis une trentaine de pages plus loin commence une seconde partie que vous avez joliment nommée « Suite classique ». Changement de décor, nous sommes aux États-Unis. Catherine, quelques mots sur le passage que vous avez choisi.
Nous sommes effectivement avec Franck, c'est votre détective de trois gouttes de sang dans un nuage de coke et un nuage de coke, pardon. Franck, c'est un détective sur le retour, un petit peu dandy, très bibliophile. C'est un homme qui collectionne les livres anciens et qui sniffe ses lignes de coke sur Bossuet. Mais pour acheter ses livres, il faut de l'argent et Franck en gagne en enquêtant sur un vol d'héroïne. Il a été contacté par un ancien biker, un chef de la section locale des Hells Angels. Et le voilà à Tonopah, une bourgade sinistre, écrasée de poussière et de soleil. C'est un bled où on vend des chapeaux de cow-boy, des gris-gris indiens, quelques touristes égarés, notamment dans le diner où travaille Léa.
Votre héros s'appelle Franck, Quentin Mouron, et ça tombe bien parce que votre lecteur du jour se nomme Franck lui aussi, c'est Franck Sommelet.
Le Jenny's Dinner se présente comme un saloon à l'ancienne, avec porte à battants, piano déglingué et long bar en bois marqué de coups de couteau. Sur les murs, des armes à feu rouillées, des billets de banque, des plaques d'immatriculation et des photos de truands. Sur chaque table, un panier rempli de peanuts et un porte-serviette à la gloire d'Elvis Presley. Les touristes jugent cela authentique. Deux familles d'Allemands mangent des cheeseburgers, des hot dogs. Ils rigolent, se font passer une carte de l'Ouest, évoquent des souvenirs, discutent de leur prochaine étape. Un cow-boy gominé s'approche du comptoir. Derrière celui-ci se dresse Léa. Léa. L'adolescente pieuse et débauchée, la vierge sublime et offerte. Un énergumène, une sainte, une salope, qui s'active tous les jours, tous les soirs au Jenny's Dinner. Le fast-food possède ses propres sortilèges. Il y a une authentique poésie dans l'alignement des enseignes, dans la reproductibilité des plats, dans la diversité de l'offre. Quand on roule dans le désert, qu'il fait nuit, qu'il n'y a personne, et personne depuis longtemps, depuis qu'on a quitté Vegas, depuis 100 kilomètres au moins, rien n'est apaisant comme ces oasis d'huile, de métal, de lumière. Léa, à première vue, incarne la lettre et l'esprit du fast-food américain. Un accueil chaleureux, souriant, fardé, des cheeseburgers savoureux et des pipes dispensées avec empressement, presque avec grâce. Elle n'engorge que les pauvres, les loqueteux, les désaxés, les mutilés, les refoulés, les exclus, les balafrés, les côteleux. Elle produit ses fellations en chaîne, mais leur ajoute la magie du caprice. Elle refuse les avances des Don Juan, des riches chinois, de tous les fats qui transitent par Tonopah. Ils sont arrogants, ils sont sûrs de leurs faits. Comme ce cow-boy qui articule ses propositions, qui décrit ce qu'il lui fera à Léa quand elle le voudra bien, et comme ça durera des heures et comme ça sera bien. Alors, tu veux ? Léa glisse sa main sous la caisse enregistreuse. Le type approche son visage et son souffle chlorophyllé, ses dents blanches, son parfum bon marché. Même si tu veux pas tout de suite, l'appétit vient en me mangeant.
Un saloon à l'ancienne, une tenancière aux allures de Madone et qui pourtant donne de sa personne, on l'a compris, une clientèle difficile à rassasier. On oscille là entre le roman noir et le western spaghetti, Quentin Mouron. De quel imaginaire, de quel vécu ce livre est-il le fruit ?
C'est toujours difficile à savoir. Je crois qu'il n'y a pas seulement un vécu, il y a aussi une envie de dire quelque chose dans ce livre. Il n'y a pas que des, il y a des ambiances, il y a aussi une réflexion, il y a aussi une réflexion sur les gens qui peut-être n'ont pas la parole. Il y a une réflexion sur ceux qui l'ont trop, pour qui les mots n'ont plus de sens. Je ne sais pas vers quel univers on se tourne. Moi, je suis assez western spaghetti. Enfin, j'aime bien. Elle était une fois dans l'Ouest. Je trouve que c'est très bien, mais j'ai pas l'impression qu'on est très proche de ça. Je pense pas qu'on est non plus complètement dans une ambiance polar. C'est pour ça que je suis toujours très peu à l'aise avec les genres, parce que j'ai l'impression que quand on définit un genre, au fond, on oblitère une partie de la réalité.
On n'est pas totalement dans le genre avec vous, mais vous usez des codes des genres et vous vous en amusez. C'est votre particularité. C'était déjà le cas dans votre précédent roman. C'est le cas à nouveau ici.
Oui, je crois que le détective, le personnage du détective offre vraiment une grande facilité pour l'auteur parce qu'il se déplace tout seul. Il y a des choses qui se passent, il a une arme. Quand on a une arme, forcément, on peut tuer des gens rapidement. Il n'y a pas besoin de faire toute une intrigue psychologique pour voir comment ils sont peut-être pendus. Donc c'est très rapide, les coups de feu partent, l'enquête avance. Et c'est autour de ça qu'on peut vraiment greffer de la peau, greffer de la chair et mettre quelque chose qui m'intéresse davantage plus que la trame elle-même. C'est vraiment toute cette chair qu'on va mettre autour des os. Et donc je pense qu'on sort en effet du polar, mais avec quelques éléments de base qui sont intéressants, qui sont là et que je dénigre pas du tout.
C'est vrai que l'histoire, même l'enquête à proprement parler de votre détective est presque anecdotique. Elle est très rapide, très facile. On ne va pas la révéler ici, évidemment. Mais c'est vrai qu'elle ouvre sur d'autres thématiques. Et il y a ce personnage principal, ce détective, qui est un bibliophile. Et cette première partie qu'évoquait Jean-Marie tout à l'heure, avec cette bibliothécaire à Berlin. Pourquoi cette transition? Pourquoi n'être pas resté à Berlin?
Je crois que cette première partie reprend finalement les choses où on les avait finies avec trois gouttes de sang, un nuage de coke. On finissait en queue de poisson finalement, avec un meurtre d'une telle simplicité qu'elle prenait au dépourvu le shérif. Ici, un meurtre d'une telle simplicité qui prend au dépourvu le détective qui est Franck. Ça permet de marquer son vieillissement. Il est beaucoup moins flamboyant que dans trois gouttes de sang, un nuage de coke.
Il est devenu quadra, hein, il ne l'était pas avant.
Exactement, il est devenu.
Il est 40 ans maintenant.
Il est devenu quadragénaire, exactement. Il est un peu plus fatigué, il est un peu plus désillusionné. Et je pense que c'était vraiment une manière de marquer la transition. Et puis c'était aussi une autre manière de marquer qu'on n'est pas seulement dans un récit où ça commence, les fils se mettent en place et puis finalement on les dénoue à la fin. Voilà, on a un polar bien emballé. Là, il y a plusieurs fils, il y a plusieurs univers. Et je crois vraiment qu'il y a, entre les deux passages qui n'ont pas vraiment de rapport, une sorte d'unité, mais qui n'est pas une unité d'action, qui est plutôt une unité de thème, une unité de sentiment.
Quelque part dans l'une des premières pages de votre roman, Franck dit ceci: « Mon masque s'est épaissi, je voulais être libre, excessif, et je ne suis que bibliophile, n'est-ce pas la pire des humiliations ?» Quel constat ?
Oui. Oui, je crois que c'est ça. La première partie, en tout cas, est un constat de vieillissement. Alors après, les choses se mettent en place. La rencontre du personnage de Léa, qui était évoquée tout à l'heure, fait beaucoup pour Franck, puisque c'est un espèce de moment de vie. C'est une sorte d'oasis à laquelle il vient s'abreuver. Il y a quelque chose de très fort entre ces deux personnages, et c'est bien pour ça. Franck devient de plus en plus secondaire au fil du récit, et on est bien dans l'âge de l'héroïne, c'est-à-dire de cette héroïne qui est Léa, qui a 17 ans.
Florian Aiglin, vous vouliez intervenir par rapport à ce que...
Oui, pourquoi est-ce que... Alors bon, pas par rapport à la réflexion sur les quarantenaires.
Mais ça vous a choqué un peu. Hein.
Oui, mais bon, enfin, il verra plus tard.
Oui, 15 ans vous séparent, on l'a pas dit, vous avez 26-27 ans, Quentin, vous en avez 42, vous Florian. Donc c'est une génération qui n'est pas tout à fait la même.
C'est juste. Mais donc la question, enfin je voulais te demander, pourquoi est-ce une humiliation de finir bibliophile?
Vous avez un bibliophile.
Monsieur est bibliophile. Non, je crois que l'humiliation, c'est de se définir par rapport à la collection. Le collectionneur, c'est d'ailleurs un des grands personnages de la littérature du 19e siècle. C'est cette espèce de monomane qui accumule de manière stérile, qui achète des livres, qui ne les lit pas. C'est en général, d'ailleurs, à ça que se reconnaît le bibliophile ou le collectionneur typique. C'est le cousin Ponce qui accumule des œuvres d'art dans son petit appartement dégueulasse, mais qui ne va jamais les regarder ou qui le regarde en tremblant quand lui les vole. Et ça, c'est le personnage, encore une fois, assez 19e siècle, assez typé, mais dont j'avais envie, non pas de me moquer, mais de faire un repoussoir. Et je crois que c'est vraiment le repoussoir pour Franck, c'est devenir ce type complètement entartré dans sa collection, entartré dans ses œuvres, et qui manque finalement l'esprit et la lettre de la littérature par l'accumulation de livres.
Les références bibliographiques sont très nombreuses, vous les accumulez dans ce roman, et notamment dans la première partie, Quentin Mouron, sont-elles les vôtres?
Non,
vous êtes
pas,
vous-même bibliophile?
Pas complètement. Je ne suis pas bibliophile parce que je n'ai pas d'argent. Mais par contre, non, je ne crois pas que s'il y a vraiment... c'est des références, mais c'est des références presque purement descriptives, dans le sens où si j'étais, plutôt que de me trouver dans une librairie d'occasion, je m'étais trouvé dans un garage d'occasion, un concessionnaire américain, bien, il y aurait eu toutes les marques américaines qui seraient venues. Je ne les aurais pas conduites pour autant et je n'aurais rien eu à dire. Simplement, là, on est dans une bibliothèque, dans une librairie, donc forcément, il y a des noms de bouquins qui arrivent, mais ce n'est pas du tout... Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de travail sur le texte, comme je le fais plus tard avec Bossuet ou comme je l'ai fait avec Péladan dans le livre précédent.
On évoquait la figure de Léa qui est un personnage un petit peu rédempteur dans ce roman. Chez Florian Aiglin, vous avez aussi un personnage rédempteur qui est cette petite fille. Ces personnages féminins dans le roman noir ont souvent des caricatures, sont souvent des caricatures, ont souvent un rôle très très spécifique à jouer. Comment avez-vous joué de ces codes-là, Florian?
Moi, j'aime bien faire intervenir les enfants dans mes livres. Déjà dans Solal, Arnovitch, Holocaust, il y avait la présence des enfants de Solal, en particulier de sa petite fille. Un matin, il arrive chez lui avec une tête qu'il a coupée à un de ses ennemis. Il commence à la préparer pour en faire un memento mori. Donc, il masse la peau. Ensuite, il va devoir enlever la peau pour s'en faire un masque. C'est la première partie. La deuxième partie, il va conserver le crâne pour le blanchir complètement, graver des haïkus dessus. Et voilà, et au cours de ce processus, il y a sa petite fille qui fait ça très tôt le matin. Il y a sa petite fille qui se réveille et puis qui vient vers lui. Elle voit cette tête coupé comme ça dans un plateau laqué, et puis il lui demande, mais il est mort le monsieur papa? Et puis, donc Solal qui dit les choses très clairement, il est pas du tout partisan de dire des mensonges aux enfants, il dit oui, il est mort. Alors il lui demande pourquoi, et puis il lui dit la vérité, il avait fait du mal à papa. Et donc ça suffit à la petite fille, et puis il lui demande ensuite de lui préparer son chocolat. Alors je trouve que c'est peut-être une facilité que de faire intervenir un enfant comme ça qui vient un peu casser l'univers de Noirceur, mais je trouve qu'en fait c'était une manière aussi d'apporter au personnage un éclairage et lui montrer que lui aussi quelque part est un enfant. Et là, ma foi, c'est dans Ciao Connard, c'est un mécanisme un petit peu différent. Je voulais, alors je ne sais pas si c'est, dans quelle mesure c'est réussi ou pas, mais donner à Ciao Connard, disons, l'énergie, la forme d'un conte. Et partant de là, le fait qu'un enfant arrive à la fin, un enfant qui se plaint qu'on ne lui raconte pas d'histoire et qui demande à ce qu'on lui raconte une histoire, c'était une manière aussi de remettre au centre le pouvoir de la narration, le pouvoir de l'histoire et la force de l'enfant que l'enfant a. Parce que voilà, moi j'ai des enfants qui sont petits et c'est vrai que les enfants dégagent de l'énergie par leur demande, par leur envie qu'on s'occupe d'eux. Mais je voulais donner du pouvoir à cet enfant. C'est aussi un clin d'œil. Par exemple, à la fin du Seigneur des Anneaux, il est dit très clairement que c'est aussi le plus petit qui sauve le monde. C'est un hobbit qui sauve le monde. Voilà.
Il est temps de l'ouvrir, votre roman, Florian Aiglin. Il est intitulé « Ciao connard ». Il est sous-titré, vous y faisiez allusion à l'instant, « Un conte qui déconte ». On va en écouter un passage par la voix de celui qui est devenu votre lecteur attitré. C'est le comédien Franck Sommelet. Catherine, vous avez choisi ce passage.
Il faut avoir le cœur et l'âme bien accrochés pour digérer à la manière d'un Hannibal Lecter, un cannibale bien connu, toute la tripaille servie chaude dans « Ciao connard ». Un écrivain est torturé et son tortionnaire semble y mettre beaucoup d'application et d'imagination, des tortures sophistiquées, de plus en plus perverses, pour nous mener aux confins de l'horreur, à la limite du conte gore, où un petit chaperon rouge finit par se faire dévorer, non par le loup mais par la grand-mère, ou alors c'est le chat et l'ogre. Et le narrateur de cette histoire n'est autre que l'écrivain torturé par sa propre créature, qui trouve encore des ressources pour s'évader dans sa tête, pour échapper à son corps douloureux, détruit par un stylo plume décoré de chrysanthèmes.
Quand ses mains, elles ont été bien propres, avec un beau mouchoir en tissu blanc qu'il a déployé en le faisant claquer, haletier, il a soigneusement essuyé son stylo plume en sifflotant. Une arme efficace, mais sans doute improvisée. Pourtant, est-ce qu'on s'improvise écrivain? Ou même bourreau? L'un comme l'autre, ce sont au contraire de sacrées vocations. Des apostolats auxquels il est impossible de dire non lorsqu'il frappe à la porte de notre âme en habit du dimanche, chapeau à la main et sourire de vainqueur à même la poire. Son outil de travail nettoyé, comme si c'était un membre de la famille dont il fallait prendre particulièrement soin, il l'a rebouché avec tendresse. Il s'est approché de la table avec mes viscères, sur lesquels de grandes taches d'encre violette formaient des fleurs compliquées, sorte de test de Rorschach en attente d'un lecteur qui n'aurait pas froid aux yeux. La laque noire mouchetée de dorure du stylo plume brillait, obscure et étincelante à la fois. Il semblait être une sorte de joyau oblong et hiératique, un joyau chargé d'un pouvoir sombre, fascinant, énigmatique. Il semblait être un objet de pouvoir ancien, une relique terrible et fabuleuse, une relique qui s'emparerait corps et âme voracement de celui qui voudrait mettre la main dessus pour oser s'en servir. Ce dernier, soudain asservi, ne ferait au contraire que le servir, ce joyau, ce joli stylo plume inquiétant. Nonobstant ces considérations, ce connard qui entendait me torturer, il a pris son temps pour poser son instrument à côté de mes boyaux. En le regardant faire, on voyait tout de suite que les questions qui touchaient à l'ordre, ça le concernait de près. Ça le travaillait au corps. À la fin, il ne sifflait plus.
Cette musique très rock vous dit peut-être quelque chose. Florian Aiglin, elle fait partie de la bande-son de la série américaine Californication, série 4 s'il vous plaît. Et vous êtes redevable à cette série puisque sur la première page de Ciao Connard, on peut lire ceci. Ce petit livre douteux est dédié à celui qui, à son insu, a permis que tout commençât. Subjonctif imparfait, cet alter ego en pensée qu'est Hank Moody. Hank Moody, c'est donc le héros de la série Californication, dites-nous en plus.
Oui, alors écoutez, c'est vrai que les choses, il y a maintenant quelques années, ont commencé comme ça. Je n'avais encore rien écrit, enfin à part tout ce que les étudiants en lettres écrivent quand ils sont aux études, un recueil de poésie, bref, une sorte de roman, bref.
On dit ça avec beaucoup de mépris.
Oui, parce que voilà.
Il faut bien démarrer à un moment donné.
Voilà, mais en l'occurrence, ça n'avait pas démarré à ce moment-là. Et puis j'avais commencé, je regardais la série Californication et puis... Il tient un blog dans cette série et je me suis dit, mais tiens, tenons aussi un blog. J'avais pas grand chose à faire à l'époque et donc je me suis mis à tenir un blog. Et puis assez rapidement, les différents posts de ce blog ont vu surgir un personnage que j'ai nommé Solal Aronovitch. Et puis les posts se sont mis à se suivre les uns les autres. Et puis ensuite, dans le deuxième temps, j'ai décidé d'écrire un roman et puis j'ai fait un copier-coller de tout cela. Et c'est devenu, après pas mal de travail, de couture, de patchwork, le premier volume de la série. Donc effectivement, je dois quelque chose à Hank Moody et je l'ai fait intervenir comme personnage dans le premier volume de la trilogie. Voilà, et autrement, bon, j'ai regardé tous les...
Et pas que la série 4.
Oui, qui reste ma préférée, en particulier pour la fin, dont je trouve qu'elle est spécialement poétique et métaphorique. Mais bref.
Catherine.
Très bonne série, accessoirement. Mais bon, ça c'est un autre passage. Il y a un autre personnage qui est important pour l'écriture de ce Ciao Connard, c'est Philippe Djian.
Oui, effectivement, à la base, en fait, ce roman a commencé comme un exercice de style, puisque j'ai suivi un atelier avec Philippe Djian au printemps dernier, à la Maison Rousseau et de la littérature à Genève. Donc c'était un atelier relativement conséquent qui s'étalait sur 6 semaines, si je me souviens bien. Et puis, donc, un des exercices, le premier, c'était écrivez une amorce de roman. Et puis, bon, bah, comme ça, à froid, je me suis lancé dans les choses que je connais bien, un type qui se fait éventrer. Voilà, j'avais ces idées-là. Et puis, j'ai rédigé assez rapidement sur la durée du séminaire une première version de Ciao Connard que j'ai donné à lire à Philippe Djian et puis aux autres intervenants. Les retours ont été plutôt bons, même si il y a eu des dames pour me dire quand même. Bref, on a pas mal discuté, mais les gens ont ri.
Des dames ?
Oui.
Pas forcément patronesses ?
Non, mais disons, elles n'étaient pas enchantées par la violence. Mais néanmoins...
Elles ne connaissaient pas votre œuvre au préalable, c'est pour ça. Oui. C'était un peu surprise.
Mais je la connaissent maintenant, elles ne l'ont pas lu pour autant, je pense. Mais c'est pas là. Disons, ce qui m'a montré que ça fonctionnait, c'est que pour des gens qui, a priori, ne se sentaient pas concernés par ce genre d'écriture, ils ont trouvé plutôt drôle. Ouais. Et c'est ça vraiment, la porte d'entrée numéro un pour rentrer dans un texte comme celui-ci, c'est qu'il faut comprendre que d'entrée de jeu, il y a du décalage, même si on n'a pas le nez dans les tripes, mais qu'on prend la distance avec tout ça pour essayer d'en rire. Voilà, et donc le premier jet a été effectué, entre guillemets, sous la houlette de Philippe Djian.
C'est le propre du gore, finalement, d'avoir beaucoup d'humour.
Oui, je pense qu'il faut en avoir. Alors là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on... Je sais pas si c'est du gore, en fait, parce que moi, à force d'écrire, j'ai vraiment plus l'impression que les scènes de violence me permettent d'introduire soit de l'humour, soit toute une série de comparaisons, de faire des clins d'œil à l'univers du spectacle. À un moment donné, on arrache une paupière, il y a toute une série de plaisanteries que je peux faire sur une salle de spectacle, avec la scène, la salle, les premières loges, etc. Voilà. Donc moi, ça me permet de faire ça, mais Parce que je trouve que ça crée un décalage, ça permet de travailler le corps, et ça c'est une chose qui m'intéresse, de travailler le corps dans le texte, et puis ça permet de faire une sorte de double mouvement. Ah mais c'est dégoûtant, mais c'est drôle quand même.
C'est pour ça qu'on parle de corps de texte peut-être.
Écoutez, peut-être, oui. Maintenant, aussi, pour être très honnête, ce n'est pas des choses qui sont forcément très réfléchies chez moi. Quand j'ai commencé à écrire, d'entrée de jeu, c'est des choses qui sont arrivées sous ma plume. Ces bagarres, cette violence, ces corps qui sont mis en pièces. Voilà.
Et qu'en a pensé Philippe Jean de cette violence qui prend des allures métaphoriques chez vous, souvent?
Disons que lui, c'est ce qui l'intéresse surtout, c'est le style. Donc il m'a dit tout simplement qu'il y avait une bonne adéquation entre ce qui était raconté et la manière dont c'était raconté. C'était pour ça que ça fonctionnait.
On sent chez vous une certaine fascination, et vous nous l'avez dit aussi, à travailler la chair, à décrire finalement ces organes qui sont sortis, à faire déguster le foie cuit à 70 degrés. Oui. Alors ça aussi, ça m'a aussi fait penser à Hannibal Lecter. C'est vrai qu'il y a aussi cette jubilation, que ce soit dans la série Hannibal, puisqu'on peut aussi l'évoquer, soit dans ce personnage absolument fantastique qui dévore le foie de ses hôtes avec des fèves ou lard. Donc on est vraiment dans quelque chose de la torture poussée à l'extrême, avec de la jubilation, avec de la drôlerie, mais avec de la gourmandise.
C'est ce qu'on appelle la bonne chair.
Oui, c'est ça, il y a de la gourmandise, parce qu'effectivement, moi, ce qui m'intéresse quand j'écris, vraiment, c'est la matière première que j'utilise, donc c'est la langue, c'est les mots, et vraiment, quand j'écris un mot, on appelle un autre, et c'est ça qui m'intéresse, et donc partant de là, c'est la même chose avec tout ce lexique du corps qui vient dans le texte.
Je vous propose de quitter momentanément ce lexique du corps et les rapports conflictuels entre le créateur et sa créature, pour revenir à votre roman, Quentin Mouron. Il est intitulé « L'âge de l'héroïne », lui aussi apparu comme celui de Florian Aiglin, aux éditions La Grande Ourse. Catherine, vous avez choisi un autre passage tiré de L'âge de l'héroïne.
On est toujours avec le détective de notre histoire, Franck, toujours à la poursuite de la drogue. Il a dans le collimateur Ray Hobson. Ray, c'est le parrain de Léa. Et il s'est occupé de la gamine à la mort de ses parents. On est toujours près de Tonopah. C'est un endroit où il ne fait pas bon vivre, ni mourir d'ailleurs.
Devil's Creek est une zone désertique et désolée. La conjonction d'un sol friable et d'une végétation agressive, yucca, chola, oreille de lapin, rend son accès limité, son intérêt douteux. On ne s'y arrête que pour se débarrasser d'un sommier, d'une jante fendue, d'un congélateur ou d'un morceau de ferraille. Cette décharge publique a servi, dans les années 90, de lieu de rendez-vous aux couples illégitimes et aux trafiquants de drogue. On se stationnait et on tirait son coup et on échangeait de l'argent contre des armes. Il arrivait que les couples et les gangs règlent leurs comptes. Cette gamine qu'on a retrouvée égorgée, ce motard qui a fini avec une balle dans la nuque. Le chalet appartient à Ray Hobson depuis 17 ans. C'est une cabane en ruine sur un lit d'herbes folles et de pierres sèches, au sommet d'une colline entre trois rochers rouges. Il n'y est pas allé plus de 5 fois en 17 ans. Le vent siffle doucement entre les rochers. Le soleil chauffe les tôles du toit. Ray tremble. Il se rappelle quand ils montaient ici, les trois, avec Brad Medley et Paul, le père de Léa, quand ils faisaient du feu, quand ils s'imaginaient une vie meilleure. Entre eux, il y avait peu de paroles. Ils se contentaient de grognements, d'indications brèves, de mandales. Leur vie ressemblait à un film violent, muet, grotesque. Ce qu'ils appelaient leur business et qui leur tenait lieu d'horizon se réduisait à des vols à l'étalage, à la revente de petites quantités d'herbes et d'alcool. Ils n'étaient pas précisément liés par l'amitié. Ils avaient plutôt diffus le sentiment d'appartenir à une même race. Ils s'entendaient dans la tempête. Ils aimaient que tout remue, s'alarme, que les coups partent. Ils avaient des gestes fous, des mimiques d'hallucinés. Le voilà. Ray, par la fenêtre brisée, aperçoit le pick-up Lincoln, au loin, qui soulève le sable. Il se rappelle les disputes, les bastons, les rivalités, les coups bas. Le pick-up sinue entre les tas de ferrailles, le pare-brise brille au milieu d'un nuage de poussière. Il se rappelle les menaces, les coups de feu, le Lincoln se rapproche. Il se rappelle comment c'était avant que tout ne commence à merder. Le pick-up est à 200 mètres. Comme il y avait alors des rêves, comme il y avait des perspectives. Il épaule le fusil, il ajuste le pare-brise, le moteur du Lincoln est silencieux, le désert est silencieux. 100 mètres. Il songe à sa filleule. Je lui dois bien ça. 50 mètres. Ses mains ne tremblent plus. Je te dois ça, Léa.
Leur vie ressemblait à un film violent, muet, grotesque, est-il écrit dans ce passage, Quentin Mouron. Les lieux que vous décrivez, c'est vrai, les climats que vous campez dans ce livre, comme dans le précédent d'ailleurs, nous ramènent forcément à des films noirs de la grande époque. Et j'ai notamment pensé à Sam Peckinpah, dont on entend là la musique originale de La Horde Sauvage. Est-ce que vous-même, vous êtes imprégné de cette culture cinématographique qui peut s'inviter dans vos pages ?
Moi, je crois qu'à part quelques de funèses, j'ai jamais vraiment regardé de film. J'ai vraiment j'ai une culture cinématographique qui est très, très limitée.
La soupe aux choux aussi.
La soupe aux choux, je maîtrise assez bien.
C'est
je peux
très
encore
bien.
Aller sur la grande vadrouille, mais c'est vrai que j'ai quelques trous. Alors...
C'est l'as. C'est
l'as. Chez vous, c'est le grand inconscient. Hein. Tout
oui,
arrive
là,
de nulle part.
Je crois que c'est vraiment l'inconscient. Non, là, il n'y a vraiment pas grand-chose au niveau du cinéma. Malheureusement, je suis vraiment une pieuvre.
Pourtant, Peckinpah, c'est vraiment le cinéma de la violence et on est vraiment dans cet univers que je suis assez d'accord avec Jean-Marie sur ce coup-là. Pas toujours d'accord avec lui.
Attention, vous avez en face de vous une cinéphile avertie. Hein.
C'est ça, faites attention.
Donc son avis vaut de l'or à Catherine.
Non, toujours est-il qu'il y a un rythme dans votre roman, comme chez vous, Florian d'ailleurs, un rythme très rapide, très saccadé. Il y a quelque chose qui va de l'avant. Est-ce que ce polar ou ce roman noir, justement, ce genre-là, permet d'aller au bout de l'épure?
Je crois vraiment que ça permet d'avancer, de faire avancer les choses. Ça donne une raison d'avancer. Et, ça permet aussi de camper des thèmes et de les mettre comme sur un collier. Le fil, finalement, est déjà là. Et puis, on enfile quelques perles ensuite thématiques. Mais le fil est déjà là. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Quand on pose une intrigue, même si elle est simple, même si elle est épurée, on sait où on va. Et c'est le grand avantage du genre, c'est qu'au moins, même si on n'a pas de plan, j'ai pas de plan à l'américaine en 3D fait sur ordinateur, mais j'ai quand même l'idée de base et ça avance et ensuite les choses se mettent en place. C'est aussi la difficulté forcément, puisqu'après une fois qu'on a tiré des fils, il faut quand même pouvoir les lier à un moment ou à un autre, ou alors refuser de les lier mais le faire de manière assumée.
Vous raccommoder ?
Les raccommoder, oui exactement, les raccommoder, mais ma couture a toujours laissé à désirer, mais ça va.
Et là je crois
que c'est vraiment des possibilités qui sont offertes. Après moi j'aime bien dépasser ça par exemple notamment par la digression, par le monologue, les descriptions sont beaucoup plus brèves. Là on est fait dans des passages forcément plus descriptifs aussi parce que ça permet de mettre l'auditeur en condition. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de descriptions que dans mes précédents livres. Je crois que c'est pas forcément Tonopah ici un village. Honnêtement je sais plus si j'y suis allé et ça m'intéresse pas du tout. D'ailleurs je connais bien le Nevada mais peu importe. Finalement on trouve un lieu, finalement il faut simplement qu'on s'y sente bien d'un point de vue littéraire et pas du tout d'un point de vue touristique.
Vous parliez à l'instant de votre goût pour le monologue, Quentin Mouron, et quelque part, votre héros, Franck, dit ceci. « Il n'y a pas de voix qui vaille que la sienne propre. Il faut se raccrocher à son vacarme, dégoiser fort, dégorger large. » On est au cœur de l'action, là.
Oui, je crois que c'est aussi valable pour moi.
Je veux dire par là qu'il y a aussi une dimension métaphysique à ce livre qui est évidente. On parle de genre, mais il y a aussi des questions totalement existentielles qui sont posées, que ce soit par cette madone Léa ou par Franck, le détective privé.
Oui, je crois qu'une des grandes questions, c'est la question du langage et de la parole. À partir de quel moment la parole est signifiante et à partir de quel moment elle arrête de signifier, à partir de quel moment on a l'impression qu'on est emporté par un monologue qui peut-être veut dire quelque chose pour l'interlocuteur mais qui pour nous ne veut plus rien dire, tout simplement parce que les mots peut-être sont trop usés, parce qu'ils sont trop vagues et sont trop abstraits, on n'arrive plus à les faire siens. C'est vraiment toute la question qui traverse ce livre, la question du silence, de la parole. C'est la première fois que je thématise clairement cela. Et c'est vrai que c'est ce qui obsède Franck, parce que finalement l'intrigue se résout et puis on voit encore Franck monologuer dans son Wendy's en mangeant son burger pendant encore plusieurs pages, peut-être une dizaine de pages après que tout soit résolu. Donc on est vraiment dans quelque chose où ce qui compte c'est pas du tout évidemment l'histoire compte en elle-même et je pense que les lecteurs s'y retrouveront, je pense qu'ils le liront avec plaisir. Mais il y a quelque chose derrière, et bien après la résolution, ça continue, parce que la question n'est pas réglée, elle est laissée sans réponse d'ailleurs, puisqu'une question sur la parole qui, à laquelle on donnerait une réponse, je pense que ce serait un contresens flagrant, et je n'ai pas voulu y sacrifier.
Il y a de la folie aussi, hein, que ce soit chez vous, Florian, ou que ce soit chez vous, Quentin. Est-ce que l'écriture peut rendre fou, à votre avis, Florian Aiglin ?
Je pense que c'est obsédant. Enfin, pour ma part, c'est profondément obsédant. Et à partir du moment où j'ai commencé à écrire une histoire et si j'ai attrapé le bon rythme, j'ai quelque part la bonne vibration, oui, c'est obsédant dans le sens où tous les moments que je ne passe pas à écrire sont des moments où j'attends de pouvoir me mettre à écrire. Quoi que je fasse, quand je suis en classe, etc. Donc j'essaye de ménager le plus possible de moments où je vais pouvoir me mettre au travail. Donc oui, c'est obsédant.
C'est une torture de l'écrivain et ça se ressent dans votre Chia au connard.
C'est longue scène de torture.
Oui, c'est clair que dans Chia au connard, je me suis vraiment amusé à forcer très fort le trait, mais c'est juste que il y a vraiment, à partir du moment où les choses ont commencé, il y a vraiment le pour moi en tout cas, et je suis convaincu que je suis pas le seul, le besoin viscéral d'arriver à terminer.
Viscéral, c'est le terme. Hein.
Oui, viscéral, c'est littéralement, les tripes sur la table. Mais oui, parce qu'il faut pouvoir terminer ça, c'est vraiment très important. En même temps, on peut se dire, bon, c'est égal, un livre de plus, qu'est-ce que ça change? Mais oui, c'est quelque chose qui travaille, on y pense. Voilà, maintenant que j'ai, par exemple, un nouvel enfant, il y a des moments où je la promène en poussette à la maison. Et puis, en fait, ça, c'est devenu parfois des moments où elle est en train de s'endormir. Et moi, je pense à ce que je suis en train d'écrire. C'est des moments de macération, c'est des moments de méditation. Et c'est vrai que je me dis, waouh, c'est fou à quel point ça obsède et j'y pense, etc. C'est des moments où je projette des esquisses de scénario. Donc oui, c'est obsédant.
Ce fameux connard à qui s'adresse l'homme qui est sur la table et qui considère ses tripes hors de son ventre, qui est-il ? Est-ce qu'on peut imaginer que c'est Solal Aronovitch, le connard ?
J'ai fait un petit clin d'œil à ça dans le livre, dans le sens où à un moment donné, quand le tortionnaire se met à table, il se met à table avec une serviette et sur la serviette, il y a des initiales SA. Voilà. Donc ensuite...
Petit indice.
On en reste là. Ça n'a pas tellement... Bon, pour moi, les choses sont claires sans l'être. C'est clair que j'ai un petit peu pensé à ce texte quand il a été terminé, à la fois comme une sorte de porte de sortie à la trilogie et une porte d'entrée aussi. Voilà, mais c'est vrai que, comme le disait Quentin tout à l'heure, il y a une sorte de condensation des différents thèmes qui traversent ce que j'ai écrit auparavant, oui.
On va faire un dernier détour par la chambre de torture très littéraire et sophistiquée que vous avez créée dans votre roman, Florian Aiglin. On va écouter un dernier passage tiré de Chia au connard, Catherine.
On retourne à l'horreur et à la torture, évidemment, avec notre narrateur qui subit 1000 supplices, qui regarde ses tripes fumantes sorties de lui avec un art consommé. Souffrance et peine dans ce roman, mais surtout rêve, parce qu'il s'agit de s'évader un instant de ses douleurs lancinantes, sans grand succès.
Sa nouvelle idée... C'était une idée vraiment stupide. Arrivé à la hauteur de ma bouche, il a frôlé mes lèvres de sa grosse paille rose. Puis, avec un sourire torve, il a lentement dévié le long de ma joue pour remonter jusqu'à mon œil, enfin jusqu'à mon orbite vide, puisque désormais c'était ça les termes appropriés, orbite vide. Le bout de plastique frottait doucement ma peau. Ce n'était pas une sensation agréable. Allez savoir pourquoi, elle me donnait pourtant l'impression d'être en vie. Peut-être me faisait-elle penser à l'été. Oui, le frottement de cette paille contre la peau de mon visage, il avait quelque chose d'estival. Il avait quelque chose d'heureux, d'enchanté. Nous étions partis au Japon, à Okinawa, toute la famille. La coupure, l'évasion, un séjour de rêve. Pas un touriste à l'horizon, un immense bungalow en bord de mer, pour nous tout seuls, un temps superbe, plage de cartes postales, nourriture fabuleuse, quelques visites, beaucoup de farniente, pas mal de temps passé à entretenir un petit jardin zen à l'abandon, de nombreuses lectures, ma petite fille courait, libre, heureuse, avec ses nouvelles copines japonaises, et surtout, mon épouse qui posait alors un regard tendre sur moi, un regard d'amoureuse et d'amante. Entre nos doigts qui tremblaient un peu, entre nos doigts qui espéraient, nous tenions un frêle esquif blanc avec deux lignes bleues dedans. Elle commençait à poser les mains sur son ventre encore plat. L'horizon du Pacifique recelait bien des promesses. Elle ne serait pas tenue. différents rythmes, différentes gestations. À ce moment-là, j'eus l'impression que l'espace se contractait tout entier. Tout se resserrait autour de moi. Je me sentis comprimé, écrasé par une force qui me dépassait, une force qui me pressait de tous les côtés à la fois. Et au loin, et ailleurs, je crus entendre comme un cri d'une puissance sans pareille. Un cri de douleur et d'attente qui transperçait les dimensions. Un cri primal. Ensuite, ça a fait comme les autres fois. Pour tenir le reste à distance, j'ai eu beau essayer de me remémorer d'autres choses, de bonnes choses. Ce face-à-face à la fois improbable et inéluctable que je m'affligeais m'a impitoyablement ramené à la réalité. Une réalité qu'on aurait eu de la peine à faire tenir sur une carte postale, même de grand format.
Pas mal de personnages quand même dans ce roman. Alors il y a évidemment le connard, dans Ciao connard, il y a le narrateur, il y a la femme et les enfants, la femme enceinte qui arrive là-dessus. Référence évidemment à votre univers, j'imagine, Florian Aiglin.
Oui, bien sûr, quand j'étais en train de finaliser la... Enfin non, pendant toute l'écriture de Ciao connard, mon épouse était enceinte, effectivement, oui. Et donc j'ai voulu... J'ai voulu la faire entrer. Donc le texte est un huis clos que je fais éclater à la fin. Mais disons, il y a cette présence et donc le passage que Franck vient de lire brillamment, c'est une sorte de refrain dans le texte qui revient à plusieurs reprises, exactement pareil. Et donc il y a cette espèce de comme une sorte de menace ou de promesse, c'est difficile à dire, qui revient. Et puis finalement les choses sur la fin sont plus claires. Oui.
Il y a aussi dans ce roman des têtes de chapitre. Absolument croquignolette.
Oui, c'est ça, oui. C'est...
On a l'impression que vous êtes beaucoup... L'humour est aussi beaucoup là-dedans. Hein. J'en lis un, par exemple, je tombe dessus, le chapitre 2, où l'on se fait des promesses qu'on ne tiendra peut-être pas. Ou alors celui-ci, expectative digestive. Enfin voilà, vous vous amusez beaucoup.
Oui, alors ça, c'est vraiment ça. Donc j'aime bien cette histoire du sous-titre. Là, celles-ci, elles tiennent vraiment du gag.
Ils sont souvent programmatiques, hein, ces sous-titres.
Oui, puis des fois elles sont des fois vraiment franchement potaches. Donc oui, donc c'est vrai que je les ai mis pour m'amuser. J'étais content qu'on me les laisse. J'avais peur qu'on me dise bon écoute là mon vieux c'est vraiment trop stupide. Donc tu nous vires tout ça. Mais non. Donc voilà, je suis content. Oui, parce que ça tient un petit peu de l'esprit de tout ça. Parce que sinon on dirait que voilà c'est un conte, c'est un petit peu grandiloquent comme ça. Voilà, on sauve un personnage, on sauve le monde. Mais c'est aussi un peu grotesque. Et j'y tiens.
Je disais tout à l'heure un sourire en coin, Florian Aiglin, que Franck Sommelet qui est à vos côtés est votre lecteur attitré, ce n'est pas qu'une plaisanterie. C'est vrai que depuis la première émission où vous êtes venu entre les lignes, c'est toujours Franck Sommelet qui lit vos textes, Solal Aronovitch et Chaconard. Et tout cela pourrait bien, c'est une annonce, un scoop dont on fait part à nos auditeurs, pourrait bien déboucher sur autre chose, sur un spectacle de scène. Dites-nous en plus. Bah, Franck, par exemple, peut-être.
Oui, enfin, on ne peut pas en dire grand-chose, si ce n'est qu'avec certaines personnes, effectivement, grâce à cette émission, j'ai eu la chance de connaître l'écriture de Florian, de le rencontrer. Puis, avec certaines personnes qui ont aussi aimé les romans, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, de poursuivre l'univers de Florian et du personnage de Solal Aronovitch sur une scène. Alors, sous quelle forme ? Une lecture, seul en scène, on ne sait pas
mise
encore
en
exactement, mise en espace, on ne sait pas encore exactement, mais en tout cas avec, je ne vais pas citer de nom ni de lieu, mais en tout cas avec certaines personnes, on y travaille et puis c'est quelque chose qui pourrait se faire dans un avenir proche.
Voilà. Une très jolie rencontre à laquelle, entre les lignes, est à l'origine et j'en suis ravi personnellement. Voilà, c'est aussi un lieu de rencontre entre les lignes. Quentin Mouron, vous sembliez aussi apprécier pour vos textes la manière de Franck Sommelet. L'adoptez-vous aussi comme votre...
Je vais mettre aussi le pied dans la porte pour un spectacle. Non, j'ai trouvé très très bien. Oui, c'est toujours étonnant de voir, parce que forcément quand on entend nous-mêmes le texte quand on l'écrit, et puis tout d'un coup on le voit différemment. Là, il y avait des choses très proches de ma manière de le penser. Parfois, quand je suis venu entre les lignes, c'était complètement différent. C'était bien aussi, mais au début je me disais, mais tiens, qu'est-ce qu'il est en train de foutre là? Mais en fait, c'est toujours une surprise et puis c'est tout l'intérêt parce que ce que fait le comédien, le lecteur le fait aussi, c'est-à-dire qu'il s'approprie un univers.
Eh bien, merci à tous les deux. Quentin Mouron, je rappelle que vous êtes l'auteur de L'âge de l'héroïne, roman à paraître début juin aux éditions La Grande Ourse. Donc c'était une avant-première aujourd'hui, c'était aussi en quelque sorte un scoop. Quant à vous, Florian Aiglin, vous êtes l'auteur de Ciao Connard, roman paru lui aussi à La Grande Ourse. Et on rappelle à nos auditeurs que vous serez présents au Salon du Livre de Genève sur la scène du crime ce vendredi à 17h30 aux côtés de Sébastien Meyer. Et puis, que dire encore? Que vous animez, vous, Quentin, différentes rencontres, justement.
Il fait tout, Quentin.
Sur différentes scènes du Salon du Livre.
Je suis très polyvalent.
Et puis, je vais peut-être conclure en rappelant, peut-être en apprenant à nos éditeurs que vous, Florian Aiglin, par la magie du différé, vous serez sur le plateau de La Puce à l'oreille sur RTS1. C'est diffusé ce soir en deuxième partie de soirée.
Tout à fait.
Un joli moment que vous avez passé. C'est une émission enregistrée, on le dit tout de suite.
Oui, c'était un très bon moment. C'était des échanges agréables. Bien, bon souvenir d'émission.
Eh bien, nous, on se réjouit de vous recevoir prochainement, entre les lignes ou ailleurs. En tout cas, ce sera sur Espace 2. Entre les lignes vous était proposé par Catherine Fadbert. Les lectures étaient assurées brillamment à Florian. C'était Franck Sommelet, la diffusion en régie John Aslebacher, l'assistance à la production Madeleine Teucher. Merci à tous. C'est une production signée Jean-Marie Félix, à retrouver comme toujours sur la page internet de l'émission. Pour y parvenir, vous tapez rts.ch/entre-les-lignes en un seul mot. Demain, après les infos de 11h, vous retrouverez Annick Chuin et trois chroniqueurs spécialisés pour évoquer quelques livres justement dont on parle au Salon de Genève. Ce sera Zone Critique Littérature. Et après les infos, ce sera Magma. Vous écoutez Espace 2, il est très exactement midi.